Jean-Christophe Folli, servi sur un plateau.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Un portrait n'est pas une amabilité, mais une opinion, déclarait un célèbre photographe. Une citation qui va à notre invité comme un gant blanc, porté élégamment d'abord, puis jeté à la figure de la vie, de l'histoire, du vous et du nous qui sépare. Ce portrait qu'on va tricoter en sol majeur autour de Jean-Christophe Folli aura l'étoffe de sa timidité et de ses convictions. Il épousera les contours d'un amoureux invisible, voire l'angle mort où il tient le rôle principal, trouvera l'équilibre entre l'exigence du théâtre et le pouvoir du cinéma. Comédien, acteur, dirigé par Claire Denis, mise en scène par Bellorini, désormais auteur du seul en scène Salade Tomate Oignon qui ne lésine pas à se pourlécher les babines des préjugés raciaux, Folli, qu'on aime déjà un peu beaucoup, est un acteur noir en passe de connaître le privilège d'avoir sur plateau et grand écran la tête de Monsieur Tout-le-Monde. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Yasmine.
C'est bien de vous dont il s'agit. Vous vous reconnaissez Chouïa ?
Ouais, Chouïa, non, ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est un beau portrait, ouais.
On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. On a des blagues, mais c'est pas celles qui les font marrer. J'ai des images, mais c'est pas celles qui les font rêver. Je suis pas un loup, mais je suis pas une brebis égarée. J'ai des sujets, mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets, mais ils font tout pour les saborder. Je suis né ici, mais je me sens pas du tout français, même si je maîtrise mieux cette langue que Bruno Maigret. Ça les fait rire, pourtant je sens qu'ils sont stressés. Avec mes rimes, ils savent jamais sur quel pied se casser. Et ils se demandent si la prochaine est dédicacée aux langues de pute et à leurs poignées de main glacées. J'ai des messages, mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. J'ai des clichés, mais c'est pas ceux qu'ils aiment développer. J'ai des dossiers, mais c'est pas ceux qu'on traite au RG. Tintin au Congo, les nazis, Disney, RG, les colonies. Abolition sans partage des terres, chômage, progrès technique, régression, récession, racisme en progression, simulation de démocratie, conscience en dépression, mal de vivre, tristesse, solitude, ivresse, chez la jeunesse, un manque d'ambition, paralysie et manque d'argent, l'Élysée qui nous ment, personne en qui croire au Parlement, essai nucléaire, programme scolaire précaire, compte bancaire à découvert, nos vies des coups de poker, corruption, intimidation, opinion publique, médias, buzz immédiat et simulation. Pot de vin, coup de pute, coup de pub, éponge qui passe. Passage en prison lorsque l'un d'entre nous n'a pas sa place. Horizon, le béton qu'on met dans nos têtes. Tapette qui joue les durs, mère qui s'inquiète. Les pères qui baissent les bras, les fils qui baissent l'État, qui baissent le peuple, qui maudit son voisin s'il gagne l'auto. Rêve de millions, de belles autos, d'avoir la gloire du pouvoir et le temps de s'asseoir sur tous ceux qui l'écrasa pour l'avoir. Pour l'avoir. La rage de dire. C'est juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Rage de dire. Juste à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Rage de dire. La rage de dire. La rage de dire. Rage de dire. Juste à cause de ça. C'est juste à cause de ça. Rage de dire. La rage de dire. C'est juste à cause de ça. Juste à cause de ça. La rage de dire. Juste à cause de ça.
Fab, pour les intimes, c'est un rappeur qui passe sa rage donc en sol majeur. Et vous teniez à le programmer sur RFI, Jean-Christophe Folli, vous qui êtes si gentil.
Ouais, je sais pas, c'est un album que j'avais acheté quand il est sorti, je crois que c'est en 2000. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que ça a été écrit, je sais pas, hier ou aujourd'hui. C'est tellement actuel, ça fait un peu flipper, quoi. Mais en même temps, c'est toujours aussi beau et puis ça groove, quoi.
Est-ce que ça vous fait flipper quand il dit « Je suis né ici, mais je me sens pas du tout français, même si je maîtrise mieux cette langue que Bruno Maigret, donc homme politique d'extrême droite ».
Ouais, voilà, Maigret, c'était à l'époque, quoi. C'est vrai que ça. Oui, ça m'a fait plaisir d'entendre ça à l'époque, quoi. Parce que c'est des choses que j'ai pu ressentir, voilà, quand j'étais adolescent et que je retrouvais pas, quoi. Et puis le fait de l'entendre dans ce morceau, ça m'a touché. Je me suis senti moins seul.
Alors cette rage de dire qui est là, apparemment, on va aller chiner, voir si c'est vraiment la vôtre. cette rage de dire. Je vous emmène dans le noir, là où il pleut. Tendez bien l'oreille, c'est du théâtre, mais c'est aussi un poème. Ou comme le dit le metteur en scène Mathieu Cruciani, cet homme de la nuit est un prêtre vaudou qui soliloque. Un de ceux qu'on rencontre souvent sur le quai du désespoir. La nuit, avant les forêts, avec vous, Jean-Christophe Folli, extrait.
Je vis tous ces objets qu'on ne voit jamais et nulle part, sauf dans les histoires et les odeurs spéciales. Les odeurs des familles et des vieilles pierres et des vieux bois noirs et des 100 000 ans de vieillesse qui se moquent de tout, qui vous font étranger, qui ne peuvent jamais faire croire que l'on est tout à fait chez soi. Je vis tout et la vieillesse avec.
Et
parce que je suis comme cela. Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger.
Et comme étrange étranger.
Au passage, je vous présente la voix d'un sol majeur signée Shir Tidjansek, un musicien. La nuit, donc, juste avant les forêts, c'était une minute comme ça en sol majeur, texte de Bernard-Marie Coltès. Donc, à voir en tout cas le 10 mars prochain au Manège. C'est la scène nationale de Maubeuge en France. Et puis ensuite au théâtre du quartier d'Ivry près de Paris du 22 au 26 mars. Avec vous donc, Jean-Christophe, c'est votre actu. Mais est-ce que c'est votre actualité existentielle, je dirais, ce désespoir, ce cri qu'on vient d'entendre?
Existentielle, c'est une bonne question. En tout cas, ouais, je suis vraiment happé par ce personnage, par ce rôle.
Pourquoi?
Je sais pas, ça me touche, ouais, le fait de justement ce truc d'étrange étranger. Je trouve que ça va bien ensemble, quoi. Il y a un truc comme un relief qui se crée.
Ouais.
Et c'est vertigineux.
Pourquoi c'est vertigineux? Qu'est-ce qui est vertigineux?
De plonger dans cette phrase qui en finit pas. Il y a pas de point, quoi. Il y a que des virgules. Et puis voilà, du coup, il y a une idée de plonger dans le souffle. On est obligé de plonger dans une piscine. Je sais pas, glacé ou alors dans un truc où il n'y a pas d'eau. Enfin,
ou même dans un océan.
Dans un océan, ouais. Dans l'Atlantique bien violent, comme il y a au Ghana ou au Togo. Quoi.
Comme il y a dans l'histoire.
Ouais. Mmh.
Qu'est-ce qui vous parle dans les indications qu'il vous donne?
C'est plus tous les personnages très différents. C'est comme s'il y avait 10 ou 15 personnages à l'intérieur d'un même personnage. Et ça me parle. Il y a le gars qui vient un peu gratter un peu d'argent, qui veut boire un café, qui a besoin d'amour, qui parle des nanas, du syndicat international. C'est tous ces personnages différents qui me parlent.
1000 personnages et puis surtout une langue. Est-ce qu'on peut l'entendre, alors, version radio, cette langue de Coltès, avec vous, Jean-Christophe Folli?
On va commencer par le début. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Cela ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues. Mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder, il faudrait que je me sèche. Retourner là, en bas, me remettre en état. Les cheveux tout au moins, pour ne pas être malade. Or, je suis descendu tout à l'heure voir s'il était possible de se remettre en état, mais en bas sont les cons qui stationnent. Tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos. Et je suis remonté. Juste le temps de pisser. Avec mes fringues mouillées, je resterai comme cela jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour cela que je cherche une chambre, car chez moi, impossible, je ne peux pas y rentrer. Pas pour toute la nuit, cependant. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais, là-bas, le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru. Je pensais, rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit. Une partie de la nuit. Si on le veut vraiment. Si l'on ose demander, malgré les fringues et les cheveux mouillés, malgré la pluie qui ôte les moyens, si je me regarde dans une glace. Mais même si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder, tant par ici il y a de miroirs, dans les cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi.
Ouais. On se regarde. Hein.
Ouais, c'est vrai que je peux continuer.
C'est bon les silences, hein, à la radio.
Ouais.
Ça va bien, hein, ouais. le théâtre à la radio. Il paraît que ça existe aussi d'ailleurs, Jean-Christophe Folli. C'est vrai que cette image d'un homme sur le quai du désespoir, je trouve que ça dit quelque chose de ce texte.
Ouais.
La nuit juste avant les forêts. Vous êtes un amoureux de la langue, ça s'entend. Vous êtes même cogné à celle de Novarina, donc c'est dire. Mais quel est ce plaisir spécifique du comédien à dire la langue très contemporaine de Bernard-Marie Koltès?
Bah la, ouais, la langue de Koltès, ouais, c'est ce que ça fait au corps, en fait.
Et qu'est-ce que vous avez eu alors comme effet physique?
Ah, ça touche à tout. Enfin, c'est comme des décharges. Ouais, c'est jouissif, quoi. C'est une langue, on n'arrive pas à s'en défaire. C'est un combat à mener. Et puis, j'allais dire qu'on est sûr de perdre, mais je sais pas. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est plus le combat que l'issue du combat. Pendant une heure et demie, on y va dans tous les sens. On essaie de dresser la langue. Et puis, elle est trop forte pour nous. Et, ouais, ça, j'aime bien quand les textes sont trop forts.
Et puis ce qui est bien, c'est que, Covid ou pas, vous pouvez passer, vous, d'un plateau de théâtre à un plateau de cinéma. Dernier film en date, je crois que c'était en 2019, où vous avez le rôle principal, c'est L'Angle Mort. Oui, je suis passée au cinéma, là, d'un coup,
comme ça.
De Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic. C'est l'histoire, je rappelle rapidement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le film, d'un anti-héros. Il s'appelle Dominique, il a la quarantaine. Votre bouille, donc, il est musicien et il a le pouvoir de se rendre invisible depuis sa naissance, bande-annonce.
Dominique, quelqu'un a laissé ça pour toi hier quand t'étais avec Carbonel.
La journée n'avait pas bien commencé. Je me détraquais depuis quelque temps. Presque personne ne sait quel cadeau bizarre le bon Dieu a mis dans mon berceau.
Tu ne fais plus ça?
Si.
Ça n'avait pas que des mauvais côtés, ton truc. Mais t'es jamais sûr d'être à 100% seul.
Encore une fois, j'arrive plus à passer. J'arrive plus juste avec le souffle comme on faisait. Ça marche toujours pour toi?
Je me donnais un espoir, sans le savoir. Cet espoir était une folie. La mienne. Entièrement la mienne.
Pour En sol majeur, la bande-annonce du film L'Angle Mort avec vous, Jean-Christophe Folie. Est-ce que le théâtre vous a servi pour jouer cet homme invisible?
Oui, oui. Ben, encore par rapport à la langue, je pense, parce que c'était très très bien écrit.
Et c'était quoi l'intérêt de ce personnage invisible pour vous?
Ça raconte beaucoup de choses que j'ai pas analysées. C'est sûr, mais bon, oui. Forcément.
Quand même, un personnage invisible, ça renvoie à tellement de références.
Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que je n'ai pas trop réfléchi. J'ai ressenti des choses, mais je ne les ai pas analysées.
Puis vous vous réveillez un peu, quoi.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'aime pas trop trouver des réponses. Je n'ai pas analysé les choses sur les noirs qui sont invisibles ou ceci ou cela. Enfin, sinon, j'aurais été porteur de choses qui m'auraient pollué, je pense.
Oui, mais je ne pensais même pas à ça, vous voyez. Je pensais qu'on était dans une dimension un peu fantastique, donc j'avais d'autres références.
Ouais. Ouais.
L'homme invisible, là, vous avez vu la série quand vous étiez môme?
Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Bah, c'est, en plus, il est tellement pas question d'invisibilité. En fait, c'est plus les gens autour de moi qui prenaient l'invisibilité en charge, qui devaient faire semblant de pas me voir quand je me baladais à poil partout dans les rues de Paris ou dans des hôpitaux.
Cela dit, cette invisibilité des Noirs, est-ce qu'elle n'était pas effectivement dans la tête des réalisateurs? Le choix d'un comédien noir est un acte politique, c'est ce que j'ai lu dans le journal Le Monde, et c'est signé des réalisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est cool. Oui, c'est sûr que c'est politique. Et c'est dommage que ce le soit, mais effectivement, de voir un noir qui n'ait pas forcément de référence à son origine, à son passé, qui ne soit pas un dealer ou un sans-papier, ou... Ouais, c'est très fort. C'est comme 35 Roms dans le film dans lequel j'avais tourné
avec Claire Denis.
Beaucoup de noirs, il y a presque que des noirs, et puis il se passe rien, qui renvoie à la couleur de peau. C'est très très engagé.
Vous dites ça change pas, hein, au début de cette conversation en sol majeur, sous-entendu en France ça ne change pas sur cette question de l'identité, mais peut-être qu'il y a quand même des frémissements, notamment dans la culture.
Ouais, non, je sais pas. Il y a peut-être un racisme positif en ce moment.
Ah, vous diriez ça comme ça, vous?
Ouais, on a un peu le vent en poupe. Les noirs, ouais, ça marche bien. C'est cool de mettre des noirs à l'écran. C'est une mode.
Vous vous méfiez de cette mode?
Oui, je m'en méfie. Mais c'est cool parce que ouais, peut-être que les gens vont s'habituer à voir des Noirs ou des Arabes ou des Asiatiques à l'écran et qu'au bout d'un moment, ça deviendra normal. Mais je suis pas sûr.
Et vous arrêterez de dire non à certaines propositions? Parce que vous savez dire non.
Oh, on sait jamais vraiment. Oui, j'apprends à dire non. Ouais, mais il y a des trucs, c'est radical. Ouais.
Comme quoi?
Des rôles un peu creux, justement, qui stigmatisent un petit peu et qui... Ouais, il n'y a rien à manger, en fait. on représente quelque chose, quoi. On représente le dealer, on représente voilà, le sans-papier. Mais bon, quand j'avais 17 ans, j'en ai fait un. J'ai fait un gars avec l'accent et tout. C'était,
ah oui.
Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. J'ai un peu honte, mais bon, il fallait que je le fasse pour savoir que je voulais pas le faire.
La rage de dire, parce que quand même, pourquoi, comment un timide comme vous, un réservé on va dire, hein, se retrouve sur scène et derrière la caméra, c'est une question. Il y a peut-être un semblant de réponse avec la voix de James Baldwin, écrivain afro-américain et figure du mouvement pour les droits civiques, qui revient en 1975 sur le mot révolutionnaire.
Un révolutionnaire. D'abord, ils ne sont pas nombreux, les révolutionnaires, les vrais. Et c'est pas parce que tu es fâché, parce que tu es blessé, parce que tu hules, que tu es révolutionnaire. Le révolutionnaire, il y a deux niveaux, si tu veux. Le révolutionnaire, c'est, mettons, officiel. Ils sont toujours, d'après mon expérience, les gens les plus puritains du monde aussi, et les plus doctrinaires, qui prétendent qu'ils sachent la différence entre le bon et le mauvais. On peut l'appeler révolutionnaire, mais pour moi, ils sont exactement comme les prédicateurs de ma jeunesse. Aussi refoulés que ça, aussi, finalement, aussi malhonnêtes que ça. Parce que, un des choses qui m'a frappé pendant cette époque de mouvement des droits civiques, c'est une chose qu'on ne veut pas dire, mais peut-être maintenant il faut le dire, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant cette époque-là, les gens qui sont en train de faire des choses incroyables, si tu veux, qui étaient débattus, qui étaient une tôle, qui étaient très sincères, mais qui, finalement, en regardant les choses de près, on se demandait, s'il n'y avait pas un mouvement des droits civiques, et faire quoi? Des gens qui vivent que pour les causes publiques. Et parce qu'ils ne se trouvent pas chez eux une espèce de cause privée. Toutes les causes publiques sont toujours menacées par les gens qui n'ont rien d'autre à faire sauf faire partie des causes publiques. Pour faire une révolution, tu sais, il faut commencer chez soi, dans le cœur et dans la tête.
De façon très en sol majeur, James Baldwin au micro de France Culture, puisque Baldwin fait partie de votre agenda, hein, Jean-Christophe, ouais. Folie, à la Comédie de Caen, puis au Théâtre du Rond-Point à Paris, bientôt il y a du Baldwin dans l'air. Une réaction à sa définition qui relativise beaucoup le pouvoir ou l'impact du révolutionnaire.
Ouais, il est fort, ça fait plaisir de l'entendre, Jimmy. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il parle du privé, enfin, d'abord partir de soi avant d'aller vers les autres. Ouais, c'est ça, c'est partir de l'intime et puis de suivre le fil.
Sa rage, son écriture, son univers, son trajet vous ont marqué alors que vous avez complètement un autre trajet?
Oui, ça a été en plusieurs étapes, quoi, parce que j'avais lu La Chambre de Giovanni il y a, je sais pas, 10-15 ans. Et après, j'avais lu un peu Harlem Quartet, mais c'est vraiment en travaillant avec Élise Vigier sur l'adaptation du roman, sur le spectacle Harlem Quartet, que vraiment je me suis pris sa parole en pleine figure, quoi.
Mais qu'est-ce qui, dans sa pensée, fait que ça résonne en vous?
Ouais, je sais pas, c'est la solitude, le fait de partir pour être libre, d'avoir
quitté les États-Unis,
d'avoir quitté les États-Unis
pour Paris.
Parce que voilà, c'est ce qu'il dit dans Avdon Baldwin, dans le spectacle qu'on jouait avec Martial, Di Fonzobo. Il dit que s'il était resté aux États-Unis, il serait devenu fou. Ce qu'il attendait, c'était la folie. Et donc voilà, il s'est retrouvé en France et puis il a pu écrire et puis développer un peu sa pensée.
C'est la contradiction, parce qu'en France, il était perçu comme un afro-américain.
Ouais.
Pas comme un noir.
Voilà, c'est ça. Ça me fait bizarre de lire ça, quoi, en tant que noir né en France, quoi. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a réussi à trouver sa liberté en partant.
Et qui vous aide à trouver la vôtre? En le jouant,
c'est plus sur Harlem Quartet, en étant avec les partenaires, d'être dans une autre époque, dans le Harlem des années 50, 60, 70. Ouais, je trouve ma liberté, ouais, à travers ça.
Je ne sais plus comment il dit ça, James Baldwin. À l'instant, il disait quelque chose comme « C'est pas parce qu'on a la rage intérieurement qu'on est un révolutionnaire. Ouais, » Quel genre de révolutionnaire vous pensez être ?
Révolutionnaire, je sais pas si... Je me méfie des mots, quoi. J'ai pas envie de me dire révolutionnaire, quoi.
Ou alors, en tant que comédien, qu'est-ce que vous défendez, on va dire, de façon révolutionnaire, entre guillemets, quoi?
Bah le texte et l'humain. Comment réussir à toucher le public par le texte et par la situation, en étant ensemble sur un plateau? Qu'est-ce qui se passe? C'est un instant magique, c'est ça que je recherche. Et effectivement, c'est révolutionnaire au théâtre, parce que ça arrive rarement.
Quand ça m'a le bal allé dans moi, pis sorcier, pis païa ravené, poignitambi à païane, Poani tambi a payane. Quand ça s'accaf la lait dans moi, puis salon la soie, puis moins qu'un chien. Poliani est mon enzyme. Poliani est mon enzyme. Volcan la liosi gardien, si t'es un volcan la liosi gardien. Quand ça chinois l'allait dans moi, puis en sintoc, puis en poutan Pékin, pour remplir en monté mon divin, pour remplir en monté mon divin. Sa arabes allaient dans moi, puis en l'odeur les neuf magasins, païen que tolérance en voisin, païen que tolérance en voisin. Sa bouc madame des bassins, pour l'anisis pas plus pas moins, pour l'anisis pas plus pas moins. Quand sa oreille allait dans moi, puis en maïcal râle dans le train, dans son tramail la langue pour clin, dans son tramail la langue.
Oui, oui, faites place au Maloya de Daniel Waro pour un sol majeur qui fait chanter le créole réunionnais comme personne. Alors, il est très très loin de votre histoire et même de vos références intimes, bien sûr. Quand on parle de musique, on parle de sensibilité. Mais pourquoi ce titre, Jean-Christophe Folli ?
Bah justement, moi, c'est par rapport à tout à l'heure, ce truc de sentir et de ne pas conscientiser. Bah c'est vraiment ça. La musique de Daniel Waro, ça me fait quelque chose, ça me prend aux tripes. Voilà, je suis plus moi-même, quoi. C'est comme j'ai appuyé sur off au niveau du cerveau et le cœur saigne, quoi. Il a une voix et puis ouais, je sais pas vraiment ce qu'il raconte parce que je parle pas le créole réunionnais, mais ça me va droit au cœur et c'est ça que je recherche.
Jean-Christophe Folli, comédien quand il ne fait pas l'acteur, quand il ne fait pas l'auteur, quand on a gros sur le cœur.
Est-ce qu'à votre avis, notre existence est le fruit du hasard?
Ça, c'est une belle question pour quelqu'un qui n'aime pas conscientiser.
Waouh, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est costaud. Ouais. Oui, bah oui, complètement. C'est complètement le fruit du hasard. Après, on y trouve un sens. Mais oui, ça fait peur de se poser ce genre de questions.
Vous savez que vous me faites rire, hein. Et je vous l'ai dit en off, vous avez une tête à jouer du burlesque. Je dis ça, je dis rien.
Ouais, j'adorerais, ouais. J'aime beaucoup. Ouais, ce que je vous disais aussi, ouais, j'adore le clown. ça a un peu changé ma manière de jouer, de faire du clown à l'école Claude Mathieu.
Donc, alors le hasard, est-ce que c'est quand même l'un des sujets de votre seul en scène, Salade Tomate Oignon?
Oui, ouais, la rencontre entre lui et elle, entre Guy et Lady, ouais, mais c'est le hasard qui fait que ça va ouvrir sur autre chose.
C'est un peu obscur hein, ce que vous nous dites, pour qui n'a pas vu le spectacle.
Oui, oui c'est vrai. Oui, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Guy et qui a la flemme de se faire à manger. Alors il descend au kebab pour s'acheter des nuggets. Et là, il croise le regard d'une femme. Il se dit qu'elle va changer sa vie. Et à force de la décrire, il finit par devenir elle. Et elle prend la parole et elle est en colère. Et puis elle lui propose d'aller faire la révolution à Montrouge. Et il y a un troisième personnage qui apparaît et qui s'appelle Jean Montrouge et qui est libre et qui a plus besoin de personne et qui s'en va nu sur la banquise.
On va s'arrêter justement une minute en sol majeur sur ce troisième personnage. Il a un chapeau melon, des lunettes, une écharpe, une petite valise à la main et il attend.
J'en peux plus de cette valise, je te jure, je la supporte plus. Ça me... Oh putain, c'est... Et ça n'a rien à voir. C'est bizarre parce que je ne suis pas en transit, tu vois, je ne viens pas gratter, je ne suis pas un migrant, je ne viens pas casser, tu vois, je suis là, je suis chez moi, enfin bon, je crois. Mais ça fait depuis que je suis né que je me trimballe cette valise, ça fait depuis 40 ans, c'est depuis 400 ans, c'est... Parce que ce n'est pas une valise toute simple, hein. Hein, là, elle fait comme si... Mais non, c'est parce qu'elle est timide, parce qu'il y a du monde, mais non, ce n'est pas un truc qu'on ouvre, on met ses machins dedans, on la referme, on la cadenasse, on va à l'aéroport, c'est pas ça, hein. C'est pas un truc qu'on laisse rouler sur le tapis électrique, faire trois fois le tour avant de la reconnaître. Non, elle a une histoire, cette valise. Et on n'imagine pas ce qu'a pu tenir dedans.
Extrait en sol majeur donc de ce spectacle Salade Tomate Oignon, signé Jean-Christophe Folie, à voir à l'espace des Arts Chalon-sur-Saône en France les 18 et 19 janvier. Et puis à partir du 26 janvier au TNP de Villeurbanne, donc près de Lyon. Elle a une histoire, cette valise, on n'imagine pas ce qu'il y a dedans. Bah on n'a qu'à l'ouvrir, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Il y a beaucoup, ouais, beaucoup d'histoires, beaucoup d'ancêtres, beaucoup de souffrances des anciens. Ouais, j'ai beau faire comme si, ouais, je suis quand même assez hanté par l'histoire des anciens. Et quand je parle des anciens, c'est ceux que je connais, quoi. C'est mes parents, c'est mes grands-parents. Tout ce qu'ils ont dû traverser, cette transition, passer de la colonisation à la décolonisation et puis finalement la post-colonisation. Et puis pourquoi je suis né ici et pas là-bas? Quand je regarde mon cousin à Kouété qui vit à Lomé, je me dis, bon, on est pareil.
Togo,
on a,
donc.
Au Togo, on a le même sang, mais on est différent. Et pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ma grand-mère d'envoyer sa fille en France, et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ma mère de se retrouver là? Et voilà, il y a tout ça dans cette valise, quoi.
Puis des références, puisque vous dites qu'un Léon Gontran Damas, grand poète guyanais, vous a un peu inspiré dans l'écriture de ce seul en scène.
Oui. Ouais, c'est justement la finesse et puis le côté droit, quoi. Il tortille pas. Je comprends moins les Senghor et les Césaire.
Ah oui,
j'arrive toujours pas à comprendre. J'essaye, hein. Mais Damas, ouais, je comprends.
Et vous c'est avez pas... un poème, un bout de poème ou une expression ou non?
Si, il y a le poème, j'ai l'impression d'être ridicule. Voilà, je pense qu'il m'a inspiré. Mais
sous-entendu dans leur costume de blanc.
Voilà, dans leur costume de blanc. Et puis voilà, et puis le corps qui est pas fait pour voilà, les pieds qui débordent des chaussures, etc. Et du coup, le fait que le premier personnage de Salade Tomate Oignon, Guy, soit vraiment dans un costume, voilà, avec des petits gants blancs, il est habillé voilà comme un blanc, quoi. Et puis voilà, je pense qu'il y a de ça. C'est pas son costume, mais il est dedans.
Est-ce que ce spectacle, parce que effectivement, j'oriente un peu les questions sur ces questions d'identité, parce que de toute façon, c'est un peu dans la valise de ce spectacle, ces questions-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a du théâtre. Est-ce que ça tourne aussi autour de la métamorphose? Mais comme au théâtre, on peut l'envisager. Vous disiez, quand vous racontiez un peu le pitch de ce seul en scène, Jean-Christophe Folie, au début, c'est l'histoire d'un type qui, à force de la décrire, devient elle.
Ouais. Oui. Bah oui, ça c'était un peu un rêve pour moi de jouer une femme au théâtre. Et oui, c'est ce truc de transformation, de métamorphose et d'accepter tous les gens qu'il y a en moi. Mais oui, la métamorphose, je trouve que c'est magnifique. Et le théâtre me permet cela, mais je pense qu'on peut aussi l'avoir dans la vie,
oui.
Cette métamorphose.
Je sais pas.
Oui, je pense que c'est possible et j'y travaille. De m'accepter, puis d'être plein de, je sais pas, de tous mes ancêtres, de tous mes futurs.
Spectacle né, vous diriez, d'une colère, alors?
Oui.
À force de parler de fraternité, je n'avais plus de salive. Où sont mes frères ? Ça, c'est une des phrases de ce spectacle où il y a une belle écriture, je trouve, poétique. Il faut vous lire d'ailleurs. Hein. Ça vient de paraître, ce texte, Salade, Tomate, Oignon.
Ouais, c'est publié par une maison d'édition qui s'appelle Lire des Marges. Et donc voilà, c'est Bérangère Ponte qui s'en occupe. Et, ouais, donc,
on la remercie.
Ouais.
Vous chantez aussi dans ce spectacle. Et vous chantez « Vouloir être un noir exemplaire ». Ça m'a ramené comme ça dans ma mémoire et dans mes tiroirs au nègre fondamental de Césaire. C'est drôle. Mais c'est quoi un noir exemplaire ?
Je l'ai été. Hein, c'est quelque chose de, c'est un truc dont je cherche à me défaire depuis pas mal de temps. Enfin, on est tellement éduqués à passer inaperçu par rapport à l'invisibilité, justement. Je me suis rendu compte que j'avais la voix qui changeait quand je m'adressais à quelqu'un dans la rue, que je parlais un peu plus aigu pour essayer de ne voilà, de pas faire peur, quoi. Essayer d'être exemplaire. Et c'est une éducation dont il faut se défaire. Maintenant, c'est différent.
Maintenant, vous travaillez la question de l'appartenance.
Je travaille à déconstruire l'appartenance. Justement, je veux appartenir à rien. Et en même temps, je fais partie de tout. J'appartiens à tout, donc je veux appartenir à rien. Quoi. C'est un bordel.
Ni au club des Noirs, ni au club des Normands. Ça, c'est pour côté maman.
Ouais, voilà. Non, il n'y a pas de. Ouais, y a
ni
pas
au
de...
club des comédiens aussi.
Ouais, non, il n'y a pas de club. Je veux appartenir à aucun club. Ouais,
vous n'aimez pas les comédiens de gauche ou c'est plutôt les comédiens de gauche qui vous aiment peut-être pas ?
Ah, je sais pas, faut, ouais, je sais pas.
Il y a comédiens. Des hiérarchies hein, dans le monde, évidemment, du théâtre et du cinéma.
Oui, le cinéma, il y a beaucoup de hiérarchies. Comment les comédiens sont traités, comment les techniciens sont traités. Et puis, on a beau faire un film de gauche qui est censé dénoncer certaines choses, bah, on voit comment les gens de la régie sont traités, les gens des costumes, voilà, c'est assez violent. Donc, je m'en méfie. Bah, Claude Mathieu, il écrit « Le comédien vaut l'homme, et tant vaut l'homme, tant vaut le comédien ».
À méditer.
Et je trouve que c'est intéressant, et puis ça, on n'est pas obligé de mettre comédien, on peut changer de mot.
Alors, puisque vous aimez les mots, puisque vous aimez jouer, vous aimez chanter aussi, on verra ça à la fin de l'émission, petit détour par un chanteur inattendu, mais sur une autre terre. C'est là que le Togo fait son entrée dans votre en sol majeur, Jean-Christophe Folly. On est au début des années 90, et après avoir eu raison de la bourrasque démocratique qui a secoué le régime de son pays, Niasingbe Eyadema est en piste pour célébrer sa victoire.
Il y a une chanson qui dit ceci. Vous savez chanter, barre un petit coup. Hein? Chantez. Vous ne savez pas, on dit, hein? Barre un petit coup, c'est agréable. Barre un petit coup, c'est bon. Mais il ne faut pas rouler dessous la table, boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est... J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Mais j'aime encore mieux le lundi ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon.
C'est terrible, mais il faut dire que ça détend. Merci en sol majeur aux Archives d'Afrique de Alain Focat. Est-ce que cette pépite musicale, Niasingbe Eyadema chantant boire un petit coup, c'est agréable, ça a fait les joies de votre enfance à vous, Jean-Christophe ?
Ah, les joies, non, pas du tout. Si on me demandait la définition de cynisme ou de cruauté, j'enverrai ce petit extrait. Quoi.
C'est vous qui avez commandé cette archive. Hein
ouais. C'est parce que c'est à cette époque-là, il y avait mon père qui faisait beaucoup de politique au Togo dans l'opposition, qui continue d'en faire d'ailleurs. Et
c'est mouillé hein, politiquement,
ouais,
votre père.
Ouais.
Il a été ministre aussi.
Ouais, il est passé pendant la cohabitation avec le fils Eyadema. Mm-hmm. Nous, on était mômes avec mon frère, et puis notre père faisait de la politique au Togo, et puis il y avait peut-être une issue positive qui allait arriver et tout ça. Et puis ça a été la réponse un peu à tout ce combat des politiciens de l'opposition, des gens qui sont morts. Voilà, Tavio Amorim, par exemple, qui est mort. Voilà, des gens qui ont été assassinés et tout ça. Et puis le gars, il est posé en train de chanter « Boire un petit coup, c'est agréable ». Je trouve que c'est, je sais pas, cynique, c'est cruel. Et puis ça dit tellement de choses sur l'Afrique, sur la France. Et je trouve ça tragique. Et je sais pas, il y a un petit rire qui m'échappe tellement c'est horrible, quoi.
Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce paquet cadeau quand on est français, qu'on a ses origines, qu'on connaît un peu l'histoire coloniale, donc les liens du Togo et de la France qu'on connaît la manière des dirigeants africains de gérer ou de mal gérer. Enfin, il y a la famille, il y a les identités, il y a les codes culturels, il y a éventuellement la religion. Qu'est-ce qu'on fait de ce couffin-là ? Qu'est-ce que vous en faites, vous, qui vous méfiez des appartenances ?
Mais en tout cas, ce que je fais, moi, c'est justement d'écrire dessus. Et poser beaucoup de questions, je leur pose beaucoup de questions, je les fatigue un peu mes parents parce que je les lâche pas, quoi. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé dans leur tête. Et
quelle est la grande question que vous vous posez à l'endroit où vous êtes?
Pourquoi? Ouais, pourquoi je suis là, ici, à Paris, et pourquoi je suis pas à Lomé, et pourquoi est-ce qu'on chante boire un petit coup, c'est agréable, comme ça, enfin, pourquoi est-ce que ça existe, enfin, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu qui est Priscille ?
Ah, Priscille, ouais, c'était ma grand-mère, la mère de ma mère. Et j'étais très proche d'elle.
Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, alors ?
Justement, il y a ce truc, parce qu'elle était assez, j'allais dire, branchée un peu à animisme, je ne sais pas comment décrire, et tout ça, et puis en même temps très catholique. Je sais pas, oui, donc elle était à la fois très avec Dieu, et puis en même temps elle regardait Jean-Pierre Foucault à la télé et tout ça, et puis elle adorait le camembert. Il y avait un truc, ça avait pas de sens, ça avait pas de sens son truc, et du coup j'aime beaucoup ce, ouais, il y a pas forcément de sens, mais on s'arrange comme on peut, et puis c'est une histoire de protection, de ouais.
Métissage, hein, du côté maternel.
Oui, ma mère est de Sousa, c'est une de Sousa. Comme Ovidio, d'ailleurs, qui travaille ici, Ovidio de Sousa, qui est mon oncle que je salue.
Et donc, je comprends un peu mieux le titre énigmatique Salade tomate oignon, avec en sous-titre Portrait d'Amakoé de Sousa.
Voilà, ouais. Amakoé, c'est mon deuxième prénom togolais. C'est comme un autre personnage. Donc, il y a Jean-Christophe Folly, voilà, qui est. Donc, voilà, Jean-Christophe, c'est un prénom, je sais pas, chrétien, quoi. Et puis. Et donc, voilà, c'était un peu une espèce de double. Et de Sousa, donc ça vient du Brésil, de Salvador de Bahia, parce qu'il y avait c'est un ancêtre, un esclavagiste qui était arrivé au Togo, au Bénin, et qui faisait du marché d'esclaves, et tout ça, puis qui a eu, je sais pas combien d'enfants, des centaines, qui en ont eu des centaines, enfin, c'est n'importe quoi. Donc du coup, il y a beaucoup de Sousa au Togo, Bénin, surtout, et puis Ghana aussi. Puis, donc c'est ce métissage aussi, ce truc impossible, hein, j'essaye d'y réfléchir, et j'arrive pas à résoudre le truc. Enfin, moi qui suis en France, il y a le Togo, il y en a qui sont au Brésil, comment on se retrouve, voilà, ce triangle un peu. Ça me parle beaucoup, et ça me préoccupe beaucoup.
G comme le Graal.
Le Graal, donc, pour le Chevalier Folie. Vous avez un petit côté chevalier, je trouve. C'est donc le théâtre. Vous dites que c'est une histoire d'amour et c'est violent, le
ouais,
théâtre.
Ouais, ouais.
Est-ce que ça vous a, pardon pour le cliché, mais ça vous a un peu sauvé parce que ce que vous décrivez de votre enfance, c'est une enfance assez réservée, etc. Où vous avez évidemment, à un moment donné, un peu déconné, quoi.
Oui, bah, après, ouais, comme tout le monde, quoi. Mais oui, ça n'a pas forcément le même impact. Mais oui. Non, le théâtre m'a sauvé d'un enfermement, peut-être de la folie. Je pense que j'ai. Enfin, de ce que dit ma mère, je commençais un peu à disparaître, quoi. Parce que ça n'allait pas bien, quoi. Donc je me renfermais, et puis je sais pas, j'étais dans mes pensées. Parfois, je me levais en plein cours, et puis je dansais sur moi-même. Puis après, je me rasseyais. C'est l'institutrice qui a raconté ça à ma mère. Enfin, moi, je m'en souviens pas du tout. Et je parlais tout seul.
Vous disparaissiez vraiment, quoi.
Ouais, je disparaissais, ouais. Et puis donc, elle s'est dit, ah bah tiens, ce serait cool de l'inscrire au théâtre. Et ouais, sur les planches, je me suis senti très bien. Quoi.
Réapparaître.
Ouais.
Et vous avez des trucs de comédien aujourd'hui, des rituels ?
Avant de jouer ? Ah ouais, que j'essaie de casser. Je casse tous les rituels que j'ai d'habitude. Bah, d'entrer toujours par le même endroit, de parler à telle personne avant d'entrer sur le plateau. Voilà, de boire à tel moment, ou je sais pas quoi. J'avais plein de petits tocs comme ça, quoi. Le seul truc que je garde, c'est des petites huiles essentielles. Voilà, dont je m'enduis les poignets, que je renifle, quoi, mais sinon, non, il n'y a plus d'habitude.
Plus d'habitude, moins de rituels, mais des aigles, en tout cas, qui veillent sur vous.
Thank you.
Charles Mingus, un de vos aigles alors pour cet en sol majeur, Jean-Christophe Folir. Initiez-moi à son Haitian Fight Song qu'on est en train d'écouter.
Bah c'est un des premiers morceaux que j'ai entendu de Mingus. C'est un morceau qui m'a vraiment marqué, surtout le cri de Mingus, quoi, quand ça part, il criait beaucoup derrière et puis il y avait ces... Ouais, encore une fois, cette liberté, je dis beaucoup liberté ici, mais ouais, ce truc de on s'en fout, on y va. Et c'est pareil, ouais, ce truc de parler au cœur plus qu'à la tête.
Le cri ou la rage, hein, puisqu'on a commencé aussi avec ce mot, donc ça sera tempéré, je ne sais pas, oui, pas chez Mingus, mais en tout cas chez vous, Jean-Christophe Folir, par l'imaginaire. Votre compagnie s'appelle Chajar et Shams, c'est-à-dire.
Arbre et soleil.
En arabe.
En arabe, ouais. Ouais.
Pourquoi?
Ouais. Bah, c'est une amie qui s'appelle Taïm Albatros, une amie syrienne qui m'appelle toujours Chajar. Voilà, elle m'appelle Arbre. Et on écoutait beaucoup de morceaux de Fairoz, de Halid Dek, des Dapke aussi beaucoup. Et ça m'a pas mal marqué ces deux mots. Et je trouve que arbre et soleil, je sais pas, c'est important, les arbres et le soleil.
Et puis vous vous êtes mitonné à la maison. Alors je sais pas où était le soleil. Un album numérique, donc avec un home studio. Qui s'intitule « Vie et mort », alors attention, de Easy Jom, de Sinkabour.
Ouais, 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 c'est ça.
nom de scène de l'album, on va refermer cet en sol majeur d'ailleurs avec un morceau, Tatum Galineski. Alors, décryptage.
Bah oui, Tatum Galineski, bah ouais, c'est quand je fais de la musique. Je pense que j'ai besoin de créer plusieurs personnages dans ma tête pour que ce soit plus clair, quoi.
Donc pourquoi Tatum ?
Tatum Galineski, c'est une anagramme. De deux mots que je peux pas, c'est un secret, je peux pas le dire. et du coup, Tatum, bah, ça retombe sur Art Tatum. Et c'est marrant parce que je suis né le même jour qu'Art Tatum, donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Ouais. Et Galineski, après, je sais pas pourquoi, ça fait un peu basque. Et puis les basques, je sais pas, ça m'intrigue. À la fois, le pays basque, ça m'attire, en même temps, ça me bloque. Le fait d'avoir, je sais pas, un peuple hyper fier, on a envie d'en faire partie, et en même temps, on a envie d'être à côté.
C'est marrant parce qu'il y a justement un morceau dans cet album que j'ai écouté qui s'appelle « Mon peuple ». Vous ouais. y allez aussi, vous, de ce fameux concept.
Ouais. Ouais, ouais.
Pourquoi ?
Mon peuple, bah oui, c'est un peu ce truc de croire qu'il a un peuple et en fait, il n'en a pas. Quoi.
Le personnage que vous avez créé, donc ouais. C'est pas vous. Hein.
Ouais, ouais,
vous n'avez rien à voir avec lui.
Pas du tout, non, c'est de la fiction totale. Ouais. Quoi. Mais oui, c'est toujours cette idée ouais, de flirter parce que... Je ne peux pas complètement dire que je ne veux pas faire appartenir à quelque chose. Je me bats justement contre cette idée d'appartenance. Mais en même temps, ça fait du bien de se sentir un peu au chaud d'une race, au chaud d'une communauté. Mais au bout d'un moment, il faut repartir.
On va se quitter avec le morceau Blaise, comme Pascal ?
Non, pas du tout, comme Sandra Ars.
Ah, ce qui ouais, est bien aussi.
Ouais, c'est, mais non, Blaise Pascal, ouais, je connais pas hein, très bien. Mais ouais, c'était Sandra Ars. J'ai beaucoup écouté Blaise Sandra Ars. J'ai beaucoup lu, je veux dire.
Ça va aussi, on est dans la fiction.
Bah oui, en plus, comme il parle dans voilà. Le morceau. Ouais, ouais.
Juste une dernière question en sol majeur avant de vous écouter, Jean-Christophe Folir. En vous regardant dans Salade Tomate-Oignon, je me suis rendu compte que vous aviez beaucoup de respect pour les objets, pour les choses. Vous aimez bien les casseroles, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a un objet qui vous suit depuis toujours ? Je regarde vos mains qui se baladent là. Devant vous en parlant, et je vois que vous avez des bagues absolument incroyables.
Bah voilà, ça c'est la bague de ma grand-mère, de Priscille, justement. Une bague voilà, du Togo. Et puis celle-là, c'est une bague que j'ai achetée à Essaouira, une bague Touareg. Ouais, les bagues sont vraiment importantes pour moi.
Avec cette grand-mère qui était au croisement du christianisme et de l'animisme. Donc,
voilà, ouais, ouais.
Vous êtes à un croisement vous-même ?
Ouais, ouais, je sais pas encore de quoi, mais. Mais ouais, je suis à un croisement là, il va se passer des choses.
Je peux pas vous montrer la route alors. À bientôt.
À bientôt.
C'est un crépuscule idéal pour porter le prénom de Blaise. Jamais je pars, jamais je pèse, je refredonne comme un mâle. Je refredonne comme un mâle. Les discours ont déçu les religions et les drapeaux et les caresses sur la peau et la mémoire et le vécu et la mémoire et le vécu.
Donnez pas tous ces moyens de transport admirables et qui coûtaient rien au bout du temps, voyager sans papier, y'a pas besoin de passeport.
C'est un crépuscule parfait pour mesurer son corps à l'autre, pour que le sang coule et se vautre sur le visage qu'on aimait. sur le visage qu'on aimait. C'est les piments sur la tendresse, corde vocale et bouillantée. C'est l'histoire du corps hanté qui veut rugir et se redresse. Qui veut rugir et se redresse.
Des régimes de banane et de tassons, prenant je suis revenu avec la fièvre, je suis revenu avec du fric, je suis revenu avec la fièvre du fric.
Et craché mes 13 glavions dessus, le bitume éternel, et vu des regards fraternels, je me suis senti le noyau. Je me suis senti le noyau de la grande tribu des arbres. Ils m'ont dit va toi qui peux fendre l'aube et changer la mort en cendre. Tu seras le chanteur des arbres. Tu seras le chanteur des arbres. Je choisis donc ce crépuscule pour étreindre une dernière fois, femmes et hommes d'une voix. C'est mon retour dans le crédule. C'est mon retour dans le crédule. Il nous faut rire un grand éclat. Il nous faut boire un grand goulot. Il nous faut jouir pour fouler aux pieds la mémoire. Et me voilà. Pieds la mémoire et me voilà.
J'étais bijoutier, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais voleur de chevaux, j'ai fait du cinéma. J'ai accompagné les immigrants de Lituanie à New York. Je me suis bagarré avec des Chinois, avec des Allemands, avec des Polonais, avec des Sud-Américains. J'ai crevé la faim à la cuillère des régimes de bananes à l'importation. Prenamment, je suis revenu avec la fièvre, je suis revenu avec du fric, je suis revenu avec la fièvre du fric, quand on n'y comprenait plus rien. J'exagère. Pas du tout, et j'en dis le moins possible pour ne pas suffoquer le lecteur qui, si c'est lire entre les lignes, en trouvera suffisamment pour prendre feu à son tour. Et puis, peut-être, fiche le camp ou laisser partir son gosse qui, à son tour, à 15 ans, et deviendra je ne sais qui, hein? John Krajicek ou un autre.
Les Blaise, hein, puisqu'il passe une tête en sol majeur. Émission à retrouver donc en podcast, vous savez où, sur votre application Pure Radio, bien sûr sur nos réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes Twitter, Facebook, Instagram, il fait nom de la tête, ou bien derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On se retrouve la semaine prochaine autour de Belghès Jafari pour un week-end spécial Atelier des artistes en exil. À bientôt Jean-Christophe Folli.
À bientôt Yasmine, merci beaucoup.
Merci beaucoup les amis. Twitter, Facebook, RFI.fr, on peut toujours se retrouver.
Le coq